Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Good evening business. La grande interview, Edwige Chevrillon.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. En effet, mon invité ce soir, c'est Clément Beaune, il est ministre délégué en charge des transports. Bonsoir Clément Beaune.
Bonsoir Edwige Chevrillon.
Merci d'être avec nous. Est-ce que de temps en temps, vous vous dites, ouf, je ne suis plus à l'Europe, ça fait du bien lorsque vous voyez tout ce qui s'y passe?
Non, et en plus, les transports ont souvent les dossiers européens, ouais. Donc je n'ai pas complètement quitté mes amours européennes, même si les transports et l'Europe ont un point commun, c'est que ça n'est jamais très facile.
Alors, il y a un point en commun, en tous les cas, c'est évidemment toutes les questions autour de la crise de l'énergie, les conséquences que ça a pour tout le monde, hein, pour les entreprises, pour les particuliers, les entreprises et les collectivités. Un nouveau paquet d'aide a été annoncé tout à l'heure par la Première ministre, Elisabeth Borne, avec des points assez précis en fonction de la taille, et puis aussi des aides qui sont adressées aux collectivités locales. Si je vous pose la question, c'est pourquoi est-ce que c'est suffisant pour les collectivités locales? Parce que beaucoup disent, un, on ne peut plus payer, on ne veut plus payer, et trois, et c'est là où ça vous touche, on ne veut plus payer, notamment les TER régionaux, tous les transports, on ne peut plus les financer. Est-ce que c'est à la mesure de ce à quoi sont confrontées les collectivités locales?
Mais c'est à la mesure de la difficulté de la crise énergétique internationale que nous vivons, avec cette augmentation des prix très importante. Ce n'est pas des petites mesures. Au total, le paquet d'aide qu'a rappelé Elisabeth Borne, l'ensemble des mesures qui sont prises, c'est 12 milliards d'euros. Pour les collectivités locales, c'est au total, il y a plusieurs mesures techniques, mais c'est une aide, un bouclier de 2,5 milliards d'euros pour les collectivités locales, c'est quand même pas rien. Et ce qu'on a fait depuis le début de l'année d'ailleurs et qui se prolonge de manière adaptée en 2023, c'est ce qu'il y a de plus puissant en Europe pour protéger les ménages d'abord, les Français directement, les entreprises et aujourd'hui les collectivités contre la hausse des prix d'énergie. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro coût. Ce serait malhonnête de dire ça. Et d'ailleurs, l'État doit protéger, il doit aussi protéger ses finances publiques, préparer l'avenir. Et donc, il ne peut pas prendre tout à son seul compte. Mais c'est une aide très puissante pour les collectivités locales et pour les entreprises, mais puisque vous m'avez parlé de collectivités, en particulier pour leurs coûts de fonctionnement, d'investissement, notamment dans le secteur des transports.
Oui, notamment dans l'impact sur les transports. Est-ce que vous avez une idée du reste, tiens? Est-ce qu'on vous a fait le calcul, je ne sais pas, de combien cette crise d'énergie a coûté aux transports?
Alors, les transports...
SNCF, RATP, les TER, les entreprises de... les Keolis et Veolia et autres. Est-ce que vous avez une idée?
Alors, c'est beaucoup d'acteurs, donc il n'y a pas un total, mais je prends un exemple, celui de la SNCF, puisque la SNCF, c'est à elle seule, cette entreprise publique, 1 à 2% selon les années de la consommation et de la facture d'électricité française. Donc, c'est très important. La SNCF avait estimé à peu près 1,5 milliard son surcoût d'énergie pour 2023. On est justement, en prenant les choses à la racine, en train d'essayer de faire baisser les coûts d'énergie pour 2023 pour des acteurs, dont la SNCF, dont les acteurs du transport, à tous les bouts de la chaîne, si je puis dire. Les régions, quand elles vont construire leur budget et payer des services ferroviaires, et puis les entreprises ferroviaires elles-mêmes, publiques ou privées, ou des opérateurs de bus, par exemple. Vous avez cité Keolis, c'est du transport public. Bon, bah, toutes les mesures qu'on prend pour essayer de plafonner et plafonner puissamment les coûts du gaz et de l'électricité, notamment l'électricité, ça permet d'alléger cette facture. Donc on va faire les calculs, j'aurai des échanges dans les prochains jours avec la SNCF pour voir pour eux, pour les RATP, ce que ça permet d'éviter comme consommation de coûts. Je dis aussi que, sans rentrer en trop de détails techniques, ces grandes entreprises, souvent, elles ont des contrats à plus long terme, des couvertures, comme on dit, et donc ça permet aussi, par rapport à des plus petites structures, d'encaisser une partie de cette hausse temporaire de l'énergie.
Oui, la SNCF, on a le sentiment quand même que ça sera beaucoup plus cher, non, comme facture in fine.
Alors, ce qui a été évoqué par le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, il y a quelques semaines, qui était autour d'1,5 milliard, je pense que c'est plutôt une estimation haute, que j'espère, et on travaille à ça.
Et qui va la prendre en charge?
D'abord, il y a une entreprise qui vote ses budgets. Oui. Bon, et ce qu'on essaye de faire du côté de l'État, je le dis, c'est d'abord de faire baisser ses coûts, de regarder avec la SNCF, c'est une entreprise qui est autonome, qui regarde comment elle peut alléger sa facture, étaler ses coûts. Et puis, il y aura un certain nombre de curseurs sur lesquels on travaille. Par exemple, les péages du système ferroviaire vont un peu augmenter. C'est pris en charge en grande partie par l'État, un peu par les régions. Ça permet aussi au système ferroviaire de continuer à fonctionner. Si la question, c'est est-ce que c'est l'usager qui paye tout? Non. L'État prend à sa charge, par la baisse des coûts d'énergie et par les péages notamment, une large partie des surcoûts d'électricité de la SNCF et des grands opérateurs de transport.
On sait que les entreprises de transport routier sont confrontées à de nombreux problèmes, crise de l'énergie, problèmes de recrutement, fiscalité, dumping. Donc ils ont tiré la sonnette d'alarme il y a encore quelques jours. Est-ce que le système actuel, le système qu'a proposé tout à l'heure la Première Ministre, est-ce que c'est suffisant ou il faudra d'une manière ou de l'autre que vous apportiez une autre forme d'aide ?
Si vous m'en donnez l'occasion, en parlant de transport routier, je voudrais avoir un mot pour eux, puisque j'étais encore avec les routiers en Moselle cet après-midi. C'est leur dire l'immense reconnaissance qu'on leur doit, je crois, tout le pays, je le dis un peu solennellement, parce que pendant la crise du carburant qu'on a vécue, qui est en train de s'atténuer, de se régler, ils ont été exemplaires. Parce qu'ils ont eux-mêmes galéré pour avoir du carburant en tant que professionnels. Ils ont acheminé le carburant aussi, les camions-citernes, en faisant plus d'heures que d'habitude. Et ils ont évité qu'on ait des problèmes d'approvisionnement dans d'autres domaines alimentaires et autres pendant cette crise. Ou assurer, par exemple, aussi le transport scolaire qui, à de très rares exceptions près, a été garanti dans notre pays. Donc je veux vraiment leur rendre hommage. Et donc, on doit être avec eux dans tous les moments. Il y a des aides au carburant qui leur bénéficient, qu'on a mis en place depuis le début de l'année. Donc la profession a été accompagnée quand les carburants ont augmenté, les ristournes, elles bénéficient aussi aux professionnels, et puis il y a eu des dispositifs plus ciblés, ce qu'on appelle l'aide aux véhicules, c'est plusieurs centaines de millions d'euros qui ont été donnés en soutien à la profession. Ce qu'a dit le Président de la République hier, on va regarder les paramètres dans les semaines qui viennent avec les membres du gouvernement, c'est que si on doit faire des aides au carburant à l'avenir, c'est-à-dire après la ristourne, après le 1er janvier 2023, on fera des choses ciblées pour ce qu'on appelle les gros rouleurs,
oui,
ceux qui bossent.
Détail,
ça peut être des particuliers, ça peut être aussi évidemment les professionnels, et on est en train de regarder ça.
Oui, c'est ça.
On ne laissera pas tomber une profession qui a besoin, par nature, du carburant pour l'avenir. Et puis aussi, parce que ce n'est pas de la science-fiction, on accélère, même si ce n'est pas pour tout de suite, mais il y a déjà des exemples, sur le camion électrique, sur les camions propres et sur la baisse de consommation d'énergie, parce que c'est quand même ça la vraie transition écologique et la vraie solution de long terme.
On sait que le principe de ces aides, c'est de caper le prix de l'électricité à la hausse et qu'il y a eu un petit peu de bisbille entre Agnès Pannier-Runacher et Bruno Le Maire, évidemment, qui lui veille aux finances de la France. Est-ce que 350 kWh, ça vous paraît la bonne mesure, la bonne jauge? Est-ce que c'est pas trop élevé malgré tout, ce qui fait que la facture reste quand même importante?
Sans être trop technique, il y a une partie des factures d'électricité pour notamment des collectivités locales, certaines entreprises qui bénéficient du tarif régulé, celui qui est issu de l'énergie nucléaire, ce qu'on appelle l'ARENH. Sur ce tarif-là, il y avait déjà un plafonnement donc qui permettait d'éviter une explosion des coûts, une explosion des prix. Et puis sur le reste, ce qui n'est pas soumis au tarif régulé, il y a ce seuil à 325 euros le mégawatt. Et au-dessus, en effet, il y a une prise en charge large, partielle mais large, par l'État. C'est très important parce que ce que je rappelais quand même, tout ça, c'est 12 milliards d'euros dont les collectivités, les entreprises, etc., ce qu'a annoncé la Première Ministre et plusieurs membres du gouvernement cet après-midi. On peut dire on peut faire plus, mais les entreprises, notre économie, même les Français, qui sont
donc
des contribuables...
Donc pour vous, c'est le bon niveau.
Mais
vous étiez plutôt du côté de Bruno Le Maire que du côté d'Agnès Pannier-Runacher.
C'est débat interne. Ouais. Que le ministre des Finances dise que les finances publiques de la France
bien
sont
sûr
importantes, ça me paraît légitime et nécessaire et responsable. Et c'est notre responsabilité à tous. Ouais. Donc, on doit trouver cet équilibre. Et je pense, encore une fois, quand vous regardez les autres pays européens, il n'y en a strictement aucun qui a pris des mesures aussi fortes, ni sur le carburant, ni sur le gaz, ni sur l'électricité. Et on doit aussi trouver cet équilibre avec l'investissement et les finances publiques pour l'avenir.
Lorsque vous avez vu passer les résultats du troisième trimestre, le bénéfice du troisième trimestre de Total, où on a les bénéfices qui flambent, 6,6 milliards rien que sur le troisième trimestre, est-ce que vous dites comme Bruno Le Maire ce matin, ce même micro, tant mieux, ou vous dites quand même il faut aller plus loin, il faut continuer les ristournes, il faut qu'ils continuent à partager les fruits de ces super profits?
Les deux, si je peux me permettre, Elvis Chevrillon, qu'une entreprise fonctionne bien, c'est évidemment une bonne nouvelle pour notre économie. Que les fruits de ces bons résultats soient partagés, c'est nécessaire aussi. Partager avec la société, ça s'appelle l'impôt, et il y a un mécanisme européen sur les super-profits. Je rappelle qu'une bonne partie, pour justement limiter le déficit des 12 milliards d'euros qu'a présenté la Première Ministre cet après-midi, 7 milliards d'euros vont être couverts par ce mécanisme européen qu'on traduit en droit français dans le budget pour 2023 sur les super-profits. Donc c'est pas négligeable, c'est pas que Total, mais c'est une bonne partie de cette recette. Et puis qu'il y ait ensuite un dialogue social, parce que c'est bien
d'accord,
sûr contribuer à la société.
Oui.
Non, mais c'est très important.
C'est très important, surtout qu'il a été un peu tardif.
Mais je suis d'accord avec vous.
Oui.
Je suis d'accord avec vous. Les responsabilités sont partagées, mais il a fini par avoir lieu. Le gouvernement n'y est pas pour rien. On a fait une grosse pression avec plusieurs membres du gouvernement pour que ce dialogue reprenne. C'est ça qui a permis de mettre fin largement au mouvement social. Il y a encore quelques difficultés. Et c'est ça qui a permis aux salariés, parce qu'on l'a un peu oublié, d'avoir avec les syndicats comme la CFDT et d'autres qui sont engagés dans un accord, d'avoir 7% de revalorisation salariale.
Est-ce c'est que c'est quand même, est-ce que vous, légitime. Rétrospectivement, enfin, c'est pas fini parce que on y arrive, il y a encore une station-service sur 5 en France qui marche pas et il y a des régions où c'est assez concentré. Vous allez nous donner vos chiffres. Mais est-ce que quand même, vous êtes un peu choqué par le comportement Total ou pas?
Mais qu'il n'y ait pas eu de dialogue social tôt, oui, ça me gêne. Mais sans doute, on ne va pas refaire la responsabilité de tel ou tel. Il n'y a pas eu de dialogue social, c'est parfois un mal français, soyons honnêtes. Et je crois que c'était important que le gouvernement, parce qu'il faut aussi penser à la suite, aux autres secteurs, ne se substitue pas à ce dialogue social, mais l'encourage, il a repris. Et on voit que quand il marche, il produit ses résultats. Accord majoritaire, 7% de revalorisation et dans beaucoup de cas, levée des grèves. Et certains syndicats qui sont allés plus loin, trop loin je crois, alors que le dialogue social a porté ses fruits.
Et quel avenir justement pour les ristournes ou la ristourne de Total, j'entends, parce que normalement tous les dispositifs vont s'arrêter. Est-ce que lorsque vous voyez, parce que les chiffres qui ont été publiés ce matin quand même sont impressionnants, une belle réussite, mais ils sont quand même impressionnants, est-ce que vous dites qu'il faudrait peut-être que Total prolonge ces ristournes?
Il y a d'autres moyens de contribuer. Il y a cette contribution sur les fameux super profits, entre guillemets, qui rapportera 7 milliards d'euros. Total y contribue, c'est important. On a un peu dans le débat, parce qu'il y a de la confusion, oublié que ça existait, c'est dans le projet de loi de finances. C'est un mécanisme européen. Ouais, en France, c'est 7 milliards d'euros. Donc ça, c'est une contribution importante. La ristourne, elle est une contribution importante. On ne va pas changer de pied tous les jours. La Première ministre a eu raison d'insister pour que cette ristourne soit décalée. Pourquoi ? Parce que pendant la crise qu'on a vécue, les Français ont été pénalisés et on risquait d'avoir
qu'elle
de nouvelles
soit encore plus décalée.
Non, je crois qu'il ne faut pas changer, il faut donner de la visibilité, il ne faut pas changer tous les jours. On a une ristourne gouvernementale, une ristourne de Total, elle baisse le 15 novembre, elle s'éteigne le 31 décembre. Ça ne veut pas dire qu'on laissera tomber s'il y a des difficultés ensuite. J'ai dit que, et prendre la République lui-même l'a dit hier, qu'on aurait des soutiens pour les gros rouleurs. On
est en train justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions par rapport à ce qu'a indiqué hier le président de la République? Il y aurait 11 millions d'automobilistes concernés. La grande question, c'est qui est gros rouleur, dans quelles conditions? Alors, il faut travailler, il faut avoir une voiture, tout ça paraît assez logique jusqu'à présent.
Il y aura sans doute une condition de revenu. Les paramètres ne sont pas définis, donc je ne vais pas vous dire de bêtises, parce qu'il y a encore une discussion. Le président de la République a fixé le cap et le principe. Il faudra qu'il y ait non plus des ristournes généralisées, mais des aides plus ciblées. C'est une question écologique, et c'est une question économique, mais il faut du soutien. Et les gros rouleurs, ce sont des professionnels ou des particuliers qui ont besoin, une voiture évidemment, un véhicule, qui ont besoin pour le quotidien aller au travail d'une voiture de manière indispensable, et qui ont des revenus qui sont modestes. On ne va pas aider tout le monde de manière indifférenciée. Évidemment, les paramètres exacts, ils vont être construits dans les prochaines semaines et indiqués aux Français, évidemment, avant le début de l'année.
Mais par exemple, les indépendants, parce qu'on disait les salariés, les travailleurs salariés, mais les indépendants, est-ce qu'ils auront droit aussi à cette question de gros rouleurs?
Je vais être honnête, ce n'est pas encore défini. Donc, il faut regarder s'il y a des besoins particuliers. Il y aura une discussion avec les différents secteurs autour du ministère de l'économie pour voir là où il y a des besoins. Moi, je le dis par exemple dans le transport routier, pour les professionnels du transport routier, si le carburant est très élevé, il y a un besoin de soutien.
Oui, si vous êtes taxi, par exemple, qu'est-ce qui se passe?
Oui, ça peut faire partie des pistes, mais je ne vais pas vous faire la liste des besoins.
Non, mais on regarde les gros rouleurs. Un gros rouleur, c'est celui qui a un camion, donc c'est celui qui a un taxi, une infirmière.
Je ne vais pas faire du ni oui ni non. Le principe a été acté. Il y a une enveloppe qui avait été réservée dans le budget pour 2023. On ne laisse pas tomber, mais on trouve l'équilibre entre avoir une mesure généralisée qui ne peut pas fonctionner éternellement.
Oui, mais vous, d'où vous êtes, ministre des Transports, vous pouvez pousser à la roue, j'allais dire, sans faire de mauvais jeu de mots.
Je reviendrai. Il y a des discussions internes. Je ne vais pas dévoiler ce que tout le monde pousse pour le secteur dont il a la responsabilité.
Oui, mais est-ce que vous pouvez dire que ça me paraît indispensable que...
Je l'ai dit, Edwige Chevrillon, pour ceux qui sont des professionnels. Mais je vais pas. Il y a du transport sanitaire, il y a du transport de fond. Ouais. Vous savez, quand on rentre, on l'a vécu dans d'autres épisodes, dans l'essentiel, le moins essentiel, le non essentiel, c'est compliqué. Donc on va faire ce travail sérieusement et ensuite on détaillera le dispositif. Mais il y aura forcément quelque chose de beaucoup plus ciblé, parce qu'on nous dit aussi, quand on fait des ristournes généralisées, n'oubliez pas la transition écologique, et on a raison, et ne soutenez pas le carburant. Il faut aider, par exemple, les routiers à passer aux camions électriques ou à passer aux véhicules utilitaires électriques aussi. Moi, je veux qu'on mette de l'argent là-dessus.
Alors, Clément Beaune, combien de stations, parce que vous avez un peu froncé les sourcils quand j'ai dit une station sur 5, c'est les chiffres qui ont été publiés. Vous dites qu'il y a combien encore aujourd'hui, alors qu'il y a une nouvelle vague de départ en vacances, il y a combien de stations essence qui sont en pénurie de carburant?
Je suis prudent parce que les chiffres généraux ne correspondent pas à ce que vivent les Français, parce qu'il y a des situations différentes d'une région à l'autre aujourd'hui. Donc j'ai indiqué en début de semaine, comme ordre de grandeur, parce que pas être à la virgule près, qu'on était autour, au niveau national, d'à peu près 10% des stations qui étaient encore en difficulté.
Que c'est mieux en fin de semaine? On est quasiment en fin de semaine.
C'est dans les zones où il y avait des difficultés particulières, je pense à l'Île-de-France, ça va un peu mieux, mais je le dis franchement, il y a encore des difficultés.
Combien?
Pas le chiffre exact de ce soir, mais en Île-de-France, c'est plus que la moyenne nationale. Et il y a encore des difficultés, notamment sur l'essence, et notamment à Paris et en petite couronne. Donc on doit accélérer encore. Parce que...
C'est fait exprès ou pas?
Ah non, c'est pas fait exprès.
Non, évidemment. Pas de votre part, bien sûr.
Mais de la part de personne. Non. Il y a des dépôts et des raffineries qui approvisionnent différemment les différentes régions. Ouais. Et puis, il y a aujourd'hui, une désorganisation pendant 2-3 semaines de la logistique. C'est-à-dire, moi, je suis allé voir une entreprise dans l'Essonne, par exemple, qui s'appelle Primat, qui distribue beaucoup de carburant en Île-de-France. Ils nous ont dit, on est allé plus loin,
au dépôt. Quand le retour à la normale?
Écoutez, on fait tout pour que, je ne vais pas vous dire une heure précise.
Une heure, mais une journée, la semaine prochaine.
J'avais dit que le retour à 100% normal prendrait plus longtemps par rapport à l'amélioration forte de la situation qu'on a connue juste avant les vacances. Et donc, on fait tout pour que ça soit une question de jour, ce retour à la normale. Et surtout, encore une fois, il y a beaucoup de régions, tant mieux, on est quasiment dans une situation normale, où les difficultés sont plus vraiment ressenties. Et puis, il y a des endroits, l'Île-de-France en fait partie, où c'est ressenti par les gens parce qu'il y a plus de stations qui sont en difficulté. Donc, c'est une question de jour. On se mobilise au maximum. J'ai encore reçu les routiers aujourd'hui pour qu'on se mobilise ce week-end, qu'il n'y ait pas de décrochage de livraison pendant le week-end prolongé pour certains, et qu'on mobilise évidemment, et je les remercie encore, tous nos routiers pour la livraison.
Sur les autoroutes, les stations sont...
Oui.
Approvisionné.
Oui, on est à plus de 95% d'approvisionnement sur les autoroutes, donc tant mieux. Et on avait pris cette mesure juste avant le départ en vacances pour qu'il n'y ait pas de stress et que les Français qui partent en vacances pendant le week-end des vacances scolaires et aujourd'hui pendant Toussaint ne soient pas en difficulté. Donc il y a une priorisation des autoroutes et des routes nationales les plus fréquentées pour que ceux qui vont voir leur famille, on sait que c'est évidemment un moment de recueillement aussi le 1er novembre, soient les plus sereins possibles et le moins de difficultés possibles.
La question maintenant, c'est de savoir justement à propos d'autoroute, est-ce que les tarifs, les péages d'autoroute vont augmenter? Alors on dit que ça pourrait même être de l'ordre de 8% donc en février 2023, donc c'est demain, mais que vous êtes en train de négocier avec justement les sociétés d'autoroute, Vinci notamment, et que du coup, pour avoir une sorte de donnant-donnant, on allonge un peu vos concessions, et en échange de quoi, vous n'augmentez pas trop les péages. Exact ou pas exact?
Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont exactes. D'abord, il y a un rendez-vous, c'est comme ça chaque année.
Les tarifs vont augmenter, ça c'est exact.
1er février 2023, oui, je préfère être honnête. On est dans une période d'inflation. Les tarifs ont augmenté 2% au 1er février 2022. C'était très inférieur à l'inflation qu'on a connue cette année. Ils vont augmenter au 1er février 2023.
Est-ce que ça peut aller jusqu'où?
Non.
Parce que si c'est au niveau de l'inflation...
La deuxième information, c'est que je l'ai dit, et je crois que tout le monde est maintenant d'accord sur ce constat, ce ne sera pas 8% d'augmentation. Bon. On est en train de discuter...
6, parce que...
Non, je ne vais pas...
Non, mais...
Parce qu'il y a une discussion qui est en cours. Je verrai encore dans les prochains jours les sociétés autoroutières. Il y a la question de ceux qui ont des abonnements, il y a des questions justement des gros rouleurs, ceux qui ont besoin de prendre la voiture pour aller au boulot chaque jour. Il peut y avoir un geste particulier pour eux. Donc on est en train de calibrer cela avec deux objectifs. D'abord, la vérité des choses, c'est qu'il ne peut pas ne pas avoir d'augmentation. Ça, ce n'est pas possible. Aussi, pourquoi? Parce que les péages...
Il ne peut pas avoir juste 2%, on est bien d'accord. Ça sera forcément beaucoup plus.
On ne peut pas rentrer dans la fourchette, parce que ce ne serait pas sérieux
aujourd'hui. Vous pouvez nous donner une fourchette.
Non, je vous dis, ce n'est pas 8%, et on essaye que ça soit le plus bas possible, et que surtout ceux qui ont besoin, qui ont des abonnements, qui utilisent la voiture pour aller au travail, d'utiliser le plus souvent possible les autoroutes pour des raisons professionnelles, soient les moins pénalisés possibles. Donc, on est en train de discuter avec les sociétés d'autoroutes. Et ce que je demande aussi aux sociétés d'autoroutes, on signe des plans avec elles, c'est qu'elles s'engagent à ce que l'argent des automobilistes soit aussi utilisé pour l'avenir, c'est-à-dire pour les parkings de covoiturage, pour des bornes de déploiement de recharge électrique. C'est très important. Il faut aussi que l'argent que les automobilistes versent, ils en voient la couleur dans des investissements pour une route qui soit plus moderne, plus écologique aussi. Avoir une route qui accueille des véhicules électriques, c'est mieux, et c'est des investissements que font...
Est-ce que vous êtes prêt, dans le cadre de cette négociation, on sait qu'ils sont assez redoutables dans les négociations, est-ce que vous êtes prêt à allonger la durée de concession?
On discute tout, donc je ne vais pas commencer piste par piste. Pas la piste que je suis en train de retenir aujourd'hui.
D'accord, ok. Non, mais ça, c'est un point important. Parmi les autres augmentations, c'est un peu partout dans votre secteur, en tous les cas, les autoroutes, l'argent, la RATP, la SNCF, on en dira un mot si on a le temps. Je voudrais parler des VTC.
Oui.
Il y a des discussions qui sont en cours en ce moment entre les représentants des chauffeurs des plateformes et des taxis. Et les VTC demandent un tarif minimum à 15 euros. Donc, ça serait colossal comme augmentation parce que, justement, jusqu'à présent, les plateformes étaient beaucoup moins chères. Alors, vous avez une position là-dessus, vous, ou pas?
D'abord, pour être clair, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est pas une négociation, pardon, VTC-taxi, c'est une négociation entre les chauffeurs VTC.
Les représentants, oui.
Et les grandes plateformes, je ne vais pas citer de marque, mais chacun les connaît. Bon. C'est nous qui avons créé le gouvernement précédent et aujourd'hui, avec le ministre du Travail, cette négociation sociale. Ça, c'est une très bonne nouvelle.
C'est Bruno Mettling qui était en charge de ça, qui était ici
Exactement. Et c'est, on est là aussi, et on a exporté ce modèle au niveau européen, c'est en train de discuter, mais on est le premier pays à avoir un cadre social parce qu'il n'y a pas de raison que les chauffeurs VTC, ils n'aient pas le droit de discuter de leur salaire, de leurs conditions sociales. Et souvent, disons-le franchement, les premières années, ils étaient un peu exploités. Bon. Et donc, désormais une négociation sociale. Elle est en train de se dérouler. Donc, il y a des représentants des chauffeurs qui ont dit on veut la course à 15 euros. Je ne vais pas, moi, vous faire le dialogue social à leur place. On l'a créé, on laisse se faire.
Non, mais attendez-vous, derrière, quand même, il y a le pouvoir d'achat des Français.
J'y viens.
Des consommateurs.
Bien sûr, j'ai confiance dans le fait qu'il y ait cet équilibre. Aujourd'hui, pour être clair, il y a une course minimum sur les taxis, qui est autour de 7 euros, je crois, 7,30 euros. Il n'y en a pas sur les VTC, sauf si la plateforme X ou Y impose ou définit un seuil. Sinon, il n'y en a pas qui est défini au niveau réglementaire ou légal. Donc, qu'il y ait une négociation sociale, qu'elle aboutisse à améliorer le pouvoir d'achat des chauffeurs, j'y suis favorable, je pense qu'ils méritent cette protection, qu'ensuite on ait des hausses qui soient raisonnables. Parce que
C'est pas raisonnable.
Je ne vais pas moins juger, mais je crois que deux fois le prix du taxi, je crois surtout que ce n'est pas l'intérêt du secteur, pour être honnête. Parce que protéger les chauffeurs, c'est très bien, mais s'il n'y a plus personne dans les courses, ils n'auront plus de revenus. Donc ils sont en train de discuter, c'est une négociation salariale assez classique, si je puis dire, entre le niveau de compétitivité et puis la protection des chauffeurs. Mais qu'on vive dans un secteur qui mûrisse, qui se régule, qui dialogue et qui protège ses conducteurs, c'est bien.
Il y a peut-être une dernière question, peut-être une avant-dernière question, si possible. Sur les zones à faible émission d'ici 2024, on dit que les véhicules polluants, en fait, il y aura des sortes de barrages, des radars qui vont capter les véhicules polluants, c'est-à-dire niveau 3, et qui vont mettre à tout va des PV. Ça va se passer comme
Je veux clarifier, parce qu'il y a beaucoup d'angoisse là-dessus. Les zones à faible émission, c'est un outil qui est donné aux collectivités locales, c'est elles qui définissent les règles, les horaires, les véhicules concernés, etc. C'est à terme un peu plus de 40 métropoles en France. Donc c'est beaucoup de monde, c'est plusieurs dizaines de millions de Français qui sont concernés. À Paris, à Marseille, etc., mais aussi dans des villes plus petites et dans beaucoup d'agglomérations. Donc il y a une inquiétude, il faut y répondre. C'est pas du tout un système de contrôle généralisé, de sanctions généralisées. Ce qu'on dit, c'est qu'il y aura des règles définies par les collectivités locales et l'État leur propose de mettre à disposition des dispositifs de contrôle automatisé. Mais le fond de l'affaire, ce que l'État est en train de faire, on a réuni toutes les métropoles avec Christophe Béchu mardi, c'est de dire l'État est là pour aider ceux qui veulent faire la transition écologique. L'État est là pour déployer des aides, 1,3 milliard en 2023 pour passer aux véhicules électriques. Parce que l'idée, c'est que ce ne soit pas des zones d'exclusion, mais des zones où la qualité de l'air est meilleure et où chacun a la chance, même quand on a des revenus modestes, de passer à l'électrique. Donc on renforce les aides électriques, bonus, prêt à taux zéro, prime à la conversion.
Dernière question en 20 secondes, je voudrais parler de la RATP ou un service largement dégradé, avec ces primes d'absentéisme quand même. J'appelle ça exprès comme ça, c'est-à-dire que si vous venez, eh bien vous avez le droit à une prime.
Non, il y a eu beaucoup de fantasmes.
C'est de 450 euros, c'est complètement fou, non? Là, un voyage en absurdité. Déjà que vous n'avez pas le droit, enfin Jean Castex n'a pas le droit de vous parler.
Si, il a le droit de parler.
Non, on dit qu'il n'a pas le droit de vous parler.
Si, il a le droit de me parler.
Oh, non, il peut parler à vos conseillers.
Je peux le voir en rendez-vous et bien sûr, professionnellement, nous travaillerons ensemble.
Bon, d'accord, ok, parce que décidément.
Mais sur la RATP,
en un mot, allez-y.
C'est important, il y a eu beaucoup de fantasmes, pas des primes comme ça qui sont absurdes.
Dingue.
Non, mais justement, vous dites, vous avez raison, il y a un service dégradé depuis la rentrée. La RATP, pour attirer des chauffeurs, pour les maintenir aussi dans la maison, parce qu'il y a parfois des démissions, etc., elle paye mieux pour attirer dans la profession, pour mettre fin à des pénuries. Tant mieux. Tant mieux. Et évidemment, un des critères, c'est le nombre de jours où vous avez été présent. Ça ne me choque pas qu'on paye mieux les chauffeurs de la RATP qui le méritent et qu'on les paye en fonction des heures de présence. Ça ne me choque pas. Et on ne fait pas ça pour le plaisir. On fait ça parce que le pouvoir d'achat, c'est important. Et on fait ça pour améliorer le service de bus donné aux Parisiens et aux Franciliens et qu'il y ait moins d'absence. Donc oui, c'est important. Et oui, c'est positif. Et oui, je soutiens cette initiative d'entreprise.
Oui, bon. Merci beaucoup, en tous les cas, Clément, d'avoir été avec nous. J'ai encore plein de questions. Vous allez revenir voir. Hein, parce que c'est sûr que c'est toujours des questions qui nous concernent. Et puis, en plus, ce sont des entreprises derrière. Merci et beaucoup, évidemment. Si vous voulez réécouter cet entretien, vous pouvez le retrouver sur le podcast de BFM Business. Tout de suite, c'est Tech & Co. avec François Sorel. Bonne soirée.
Good evening business. La grande interview.